Vous êtes sur Easy French.
Bonjour les copains.
Salut, salut.
Galère tout ça.
Eh oui.
Alors les amis, on a un épisode un peu spécial pour vous. Vous avez peut-être dû remarquer, nous sommes que deux. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, Hélène ?
Parce que nous avons eu une galère.
Alors, on va expliquer ça un peu plus tard, mais pour faire court, on était censé enregistrer notre épisode avec Judith, et puis quelque chose s'est passé, rien de grave bien évidemment, qui a fait que nous sommes plus que deux.
C'est ça, on a eu un problème, autrement dit un couac, qui fait que nous avons dû modifier notre plan initial et que nous nous retrouvons finalement toutes les deux, Rita et moi, pour vous parler justement de quelque chose qui est lié à notre situation présente.
Eh bien, ce sont les galères. Alors du coup, on va passer à la première section.
Le sujet de la semaine.
Alors, comme tu as dit, les problèmes, les couacs, les galères, est-ce que tu penses à d'autres mots, d'autres synonymes, Hélène ?
On peut dire aussi les soucis.
Oui. Pépin.
Un pépin, bien sûr, un mot d'argot très joli.
Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être faire des phrases pour donner des exemples ?
Bien sûr. Alors, ce ne sont pas les exemples qui manquent en termes de problèmes, de galères, de couacs, etc., etc. On va être très, très inspirés, je pense, pour vous faire des exemples.
Surtout moi.
Alors, par exemple, nous allons parler donc du problème de Judith. Judith a eu un pépin avec sa connexion Internet.
Oh oui. Du coup, couac. On n'est plus que deux.
Voilà.
Bah, écoutez les amis, moi je pense que les problèmes, comme a dit Hélène, ne manquent pas. Moi, souvent, j'en expérimente, surtout dans les transports en commun. Comme certains d'entre vous le savent déjà, j'habite en dehors de Paris, dans une jolie ville qui s'appelle Saint-Germain-en-Laye, donc à l'ouest de Paris, pour être plus précise. Et pour pouvoir arriver à Paris, il faut que je prenne ce qu'on appelle le RER. C'est un train de banlieue, un train un peu plus rapide que le métro. Et il y a souvent beaucoup de problèmes. Alors, Hélène, est-ce que tu peux peut-être raconter des anecdotes par rapport à tout ce qui m'arrive souvent ?
Alors, je pense qu'il faudrait écrire un livre sur tous les problèmes possibles que l'on peut rencontrer dans ce fameux RER, donc le réseau express régional, dont on a déjà parlé dans un autre épisode, il me semble.
Tout à fait.
Effectivement. Alors, par exemple, on peut avoir un grand classique, le malaise voyageur.
Tout à fait. Un autre grand classique, le colis abandonné.
Ah, le fameux colis abandonné ou colis suspect.
Voilà, les amis, n'oubliez pas vos affaires. Il y a quelque chose d'un peu plus malheureux. Malheureusement, il y a des fois des accidents voyageurs.
C'est pire, ouais.
Ouais, ça pire. Prend beaucoup de temps, mais ça, on pardonne aux gens, on comprend. Par contre, il y a des choses un peu plus fofolle, on va dire, un peu plus loufoque.
Clairement, clairement. On a parfois...
des personnes qui courent devant le train, pour moi.
Ça peut arriver.
Ou alors les rails, il y a des parties des rails qui sont volées. J'ai eu ça aussi.
Et oui. Et moi, j'ai eu ça, mais c'était pas en France, c'était en Allemagne. C'était un troupeau de vaches qui avait bloqué le train régional, donc on était resté bloqué comme ça.
Alors, tu es sûre que ils ont dit vache et ils n'étaient pas en train d'insulter des êtres humains
non,
qui traversaient.
Non, ils ont dit bien un troupeau de vaches. On ne les a pas entendus, les vaches, donc effectivement, peut-être que c'était un mensonge, mais je trouvais que c'était assez crédible parce qu'on était quand même un peu dans la campagne et voilà. Ouais, à quelques kilomètres de Francfort. En pleine campagne, au milieu des vaches.
Alors ça, par contre, je pardonne, parce que la nature reprend ses droits. et où on est souvent en travers de leur chemin plutôt que l'inverse. Donc Exactement. Ça, c'est pas très grave. Mais j'avoue que moi, souvent, je suis à l'heure, ou je suis en tout cas censée être à l'heure. Et puis, il y a des millions de choses qui arrivent. Et c'est vrai que souvent, on se dit, bon, un réseau aussi ancien, puis un réseau aussi grand, pour avoir vécu à Shanghai, en Chine, je n'ai jamais vécu ce genre de choses dans une ville de presque 25 millions d'habitants. Et je ne comprends pas tous ces retards. Voilà. D'autres problèmes, peut-être, Hélène, dont on peut parler, à part les connexions et les trains?
Ouais, d'autres problèmes qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours. Bon, un grand classique aussi, hein, tomber malade, attraper un rhume, donc ne pas pouvoir faire ce qu'on avait prévu. Ça m'est arrivé et j'étais très, très fâchée. J'ai eu vraiment une grosse angine il y a quelques mois. Comme je n'avais jamais eu, j'ai été très, très, très malade et je n'ai pas pu aller à l'anniversaire de ma sœur qui fêtait de manière absolument exceptionnelle son anniversaire à Paris alors qu'elle n'y habite pas. Et je n'ai pas pu y aller parce que j'étais beaucoup, beaucoup trop malade. Donc ça, c'est quand même aussi un petit couac, un petit imprévu. Un autre mot pour parler des choses comme ça qui nous arrivent. Un imprévu, c'est rarement positif, il me semble. Donc voilà, c'était un petit imprévu pas très agréable. Donc il y a ça, être malade, tomber malade. Quoi d'autre? Parfois, la météo nous joue des tours aussi, nous particulièrement.
Oui. Après, en parlant météo, c'est vrai que bon, tout ce qui est pluie, neige souvent, il y a des épisodes auxquels je pense notamment, je ne me souviens pas de l'année, mais en France, enfin le monde entier, surtout l'Europe et le Canada, s'est beaucoup, beaucoup moqué de nous parce qu'à Paris, bon, bah, on n'est pas tellement habitué à la neige. Non pas que ce soit vraiment fou d'avoir de la neige à Paris, mais que ça fait très longtemps qu'il ne neige pas à Paris. En tout cas, beaucoup. Il neige un tout petit peu, pas assez pour que ça tienne, surtout du fait de la pollution donc environnante. Et il a neigé beaucoup, beaucoup. Et il n'y avait pas de pelleteuse, je crois. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas l'équipement qu'il fallait pour pouvoir rapidement dessaler, enlever la glace, etc. Donc, c'était... pas la glace, comme on dit. Le gel, quand ça gèle, c'est dangereux, ça peut glisser, etc. Et du coup, il y avait des gens qui étaient bloqués dans des kilomètres de fil de voiture, plusieurs accidents, des gens qui ont dormi dans leur voiture pour quelques centimètres de neige. Et je sais que l'Europe et l'Amérique du Nord avaient ri de nous, beaucoup. Tu t'en souviens?
C'est mérité. Oui. Je m'en souviens. C'est vrai que quand même, on pense à un pays comme la France, qui est quand même un pays qui a beaucoup de technologies, des choses quand même assez développées, mais qui n'est pas capable de gérer 10 cm de neige. C'est vrai que c'est un petit peu gênant, un petit peu embarrassant, peut-être.
Alors, je précise que ce n'est pas la France qui ne sait pas gérer, parce que dans les Alpes, nos amis de Savoie et de Haute-Savoie le gèrent souvent
très bien.
Très, très bien. Je pense que c'est surtout les Parisiens et autour
Exactement.
De Paris. On n'était pas prêts. Après, Exactement. J'ai pensé aussi aux nuages de cendres en Islande, qui avaient bloqué les vols en Europe, partout un peu. Et aux États-Unis, je pense aussi, quelques-uns qui arrivaient vers l'Europe.
Je me souviens de cette histoire. C'était à cause d'un volcan, c'est ça?
Tout à fait, une éruption volcanique, exactement.
Incroyable. Ouais. Et là, du coup, comme bien sûr, tu commences à parler des vols, des voyages. Et là, tout de suite, tout un tas de galères me reviennent en mémoire. Et c'est un fil qui s'étend. Et je me rappelle de plein de choses, que ce soit dans mon enfance, que ce soit des choses plus récentes. Par exemple, la dernière fois, c'était un problème de visa, un visa touristique qui est normalement extrêmement facile à obtenir, que je n'ai pas obtenu, que j'ai payé pour rien. Voilà. Je n'ai pas eu de nouvelles de la part des personnes censées me délivrer ce visa, bien que je les ai harcelées en bonne et due forme pendant une période assez longue. Et finalement, j'ai pu l'obtenir après avoir renouvelé ma demande, donc payé une seconde fois un visa que j'avais normalement déjà. J'ai fini par pouvoir partir. J'ai dû donc décaler mon vol d'environ un mois.
Je m'en souviens. C'était une grosse galère.
Exactement, une grosse galère. Et on se sent vraiment impuissant dans ce type de galère. C'est ça aussi qui définit un peu la galère. C'est qu'on est là un peu coincé, en fait. On ne peut pas faire grand-chose pour s'en sortir.
Moi, je me sens plutôt démunie. Non pas parce que je ne peux rien y faire, mais quand je n'ai pas assez d'informations. C'est ce qui m'angoisse le plus, en fait, personnellement. Le fait que je sois quelque part, je ne puisse pas être... comment on pourrait dire puisse rien faire d'autre et devoir attendre, être le cul entre deux chaises, pour dire les choses clairement. Et je ne sais pas si je dois y aller. Dans ton cas en particulier, tu ne sais pas si tu allais pouvoir y aller, si tu n'y allais pas. Tu aurais pu certes te dire « bon, bah, je n'y vais plus ». Ce n'est pas ce qu'on voulait non plus. Tu voulais être positive et tu avais prévu ton voyage. Tu ne peux pas vraiment prévoir quelque chose pour le futur. Et quelque part, tu ne peux rien prévoir ici non plus. Et ça, c'est vraiment le plus gênant, je crois.
C'est ça, c'est ça. Je ne savais même pas si je devais faire ma valise ou pas. Et en même temps, si je la fais et que je dois la défaire après, c'est vraiment frustrant. Mais si je ne la fais pas et que je me retrouve à devoir partir dans l'urgence sans avoir préparé mes affaires, c'est encore autre chose. Donc, c'était une situation, ouais, pas très agréable. Et c'est vrai que dans les voyages, souvent, il arrive des choses comme ça. Peut-être pas souvent, mais en tout cas, ça fait partie pour moi de l'expérience du voyage, d'avoir quelques petites galères comme ça.
Je suis d'accord. Alors, moi, je propose qu'on passe à la section suivante.
La minute culture.
Alors, Maëlène, j'ai une question pour toi. Parce que là, on parle de galères, de l'étranger... Mais on a notre lot de bêtises un peu en France aussi. Et j'avais une question, parce que souvent, face aux autres, face à l'étranger, on se rend compte de certaines choses, de notre manière de vivre, de faire les choses. Alors, comme il y a un, je dirais, un mythe, que souvent les Allemands, en tout cas, sont tout le temps à l'heure, qu'ils sont très ponctuels, la question, est-ce que nous, Français, sommes toujours en retard?
Waouh! La question qui tue.
Alors, je commence par toi. Je connais la réponse déjà.
Exactement. Oui, alors, je ne pense pas que je sois représentative de mon peuple dans ce cas-là bien précis.
De ton peuple, j'ai aimé. Des compatriotes, ton pays.
Oui. Donc, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement ponctuel. Mais le plus étrange, ce n'est pas d'être ponctuel. C'est très bien d'être ponctuel. Mais moi, je ne fais pas exprès. C'est-à-dire que c'est inné chez moi. Et même quand je ne veux pas être ponctuelle, je n'y arrive pas.
Moi, je crois que c'est parce que c'est lié au fait que tu, par exemple, tu te déplaces à vélo. Tu es quelqu'un de ponctuel, en sorte, dans le sens où tu fais attention. Tu te prépares en amont pour être à l'heure. Mais tu y ajoutes un critère important. Tu n'es pas dépendante des transports. Et de plein d'autres choses qui font que ça augmente le potentiel de risque, enfin le risque de problème, on va dire, je crois.
C'est vrai. Et d'ailleurs, les seules fois où je suis en retard, c'est-à-dire pour moi pile à l'heure, parce que pour moi c'est déjà en retard, généralement je suis là une minute ou deux avant. Donc les seules fois où j'ai un petit peu de retard, c'est parce que je n'ai pas pris mon vélo ni mes pieds, mais plutôt les transports en commun. Et même s'il n'y a pas de retard ou de malaise voyageur ou de choses comme ça, rien que les transports en commun en soi, ça retarde déjà parce qu'il y a du monde. Parfois, c'est bondé, donc il faut laisser passer un train et attendre le suivant, etc., etc. Il faut chercher la bonne sortie du métro. Et tout ça, ce sont des facteurs à risque.
Oui, et il y a un effet domino comme ça qui ajoute, qui accumule l'accumulation de petits retards, de micro-retards qui font qu'au final, on est en retard. Je suis d'accord. Mais après, moi, est-ce que les Français sont à l'heure? Je pense que ça dépend. Vraiment, moi, j'estime qu'au niveau professionnel, je pense que les gens en général qui ne viennent pas à l'heure, en tout cas culturellement, c'est quand même mal vu. Peut-être pas au point que oui. C'est mal vu professionnellement en Allemagne, mais ça l'est. Parce qu'en Allemagne, les gens viennent quand même en avance, en général. Donc, de mon expérience, quand on arrive à l'heure ou un petit peu en retard, déjà, c'est un grand drame. Chez nous, il faut arriver à l'heure, pile poil. On nous a toujours appris de venir un petit peu 5 minutes avant pour éviter ce genre de choses. Après, tu me corrigeras si je me trompe, mais dans ma perception des choses, il y a une sorte de 10 minutes de latence ou... qu'on peut excuser à quelqu'un en France si on a un rendez-vous qui est un peu plus amical, plus, voilà, qui n'est pas un rendez-vous de travail. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, je pense qu'il y a une certaine tolérance, une certaine flexibilité et qu'en dessous de 10 minutes, on ne vous fera pas de remarques, à moins d'être face à quelqu'un qui est un petit peu plus strict, mais normalement, c'est toléré.
Oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, on va se mettre d'accord. Non, les Français ne sont pas souvent en retard. Ou en tout cas, ils ne devraient pas l'être. Et on passe à la section suivante.
J'ai capté.
Alors, Hélène, tu nous as préparé une petite définition, je crois.
Oui. Alors, les amis, on parle depuis le début de galère. Et je ne sais pas si c'est un mot que vous avez appris, que vous avez entendu et que vous avez compris grâce au contexte ou pas. Mais en tout cas, on a pensé que c'était une bonne idée de vous en donner la définition. Alors, Rita, déjà, toi, comment est-ce que tu définirais une galère ? Qu'est-ce que c'est une galère ?
Alors, en contexte, la galère, comme on a dit, c'est un petit problème. Non, je dirais plutôt un grand problème, pardon. La galère, c'est un grand problème, quelque chose qui va affecter notre vie, va changer quelque chose, impacter notre programme. Donc, c'est un assez grand problème, mais ce n'est pas non plus quelque chose, quand je dis grave, je dirais personnellement, qui touche à la santé ou à la mort ou à la vie. Par contre, c'est assez grave pour vraiment nous embêter clairement dans notre travail, dans notre vie quotidienne. Voilà. Alors après, je sais qu'il y a une autre explication au mot. Tu pourras nous la donner peut-être.
Ouais, oui, oui. Alors, je trouve que tu as très bien défini le mot de la manière dont on l'utilise, nous, au quotidien. Après, le mot a un autre sens. En fait, une galère, c'est un bateau de guerre ou un bateau de commerce ou un autre type de bateau, mais en tout cas assez gros, qui fonctionne à l'aide de rames. Donc, il faut pagayer. Il y a des voiles, voilà, un bateau qui était utilisé de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle. Et souvent, les personnes qui ramaient sur ces gros bateaux, c'était des prisonniers ou des esclaves, des gens qui ramaient sans l'avoir décidé et qui n'étaient pas payés pour ça, qui étaient exploités en fait pour faire fonctionner ces galères. Et donc, quand quelqu'un avait commis un délit, on pouvait envoyer cette personne aux galères ou à la galère, et c'était en fait une condamnation à effectuer un travail extrêmement pénible, extrêmement difficile. Et c'est de là, en fait, que vient l'expression qui aujourd'hui désigne quelque chose de beaucoup moins grave, bien évidemment, parce que le sens s'est étiolé petit à petit, mais ça vient de là.
Oui, et je trouve ça très intéressant, parce que moi, je n'arrive pas à me... je ne peux que faire le lien entre ce mot et donc une autre langue latine, qui est le portugais, parce que je pense que la galère, ce bateau que tu nous décris, il existe également dans la langue espagnole et portugaise, sans doute dans d'autres, peut-être en roumain, peut-être aussi. Mais en tout cas, en portugais, je précise bien, populaire du Brésil, a galère, c'est les gens, un groupe de jeunes, les personnes. Et je ne sais pas si c'est réel. Peut-être que vous, qui nous écoutez, avez la réponse et vous pourrez peut-être nous envoyer un message vocal pour nous en parler. Mais je me dis qu'il y a peut-être un lien aussi et que chez nous, ça a évolué en français vers... ce terme-là, de problème, de galère, et puis au Brésil, peut-être d'un grand groupe de personnes. Voilà. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que oui.
Intéressant.
N'est-ce pas?
Ouais, il y a une chose que je voulais ajouter d'un point de vue linguistique, c'est qu'en français, la galère, c'est un nom, mais ça peut aussi être un adjectif. Vous pouvez dire, oh là là, c'est galère.
Oui.
J'ai fait ce travail et c'était vraiment galère.
Et bien sûr, préciser que c'est très familier, hein, qu'on l'emploie
bien sûr.
Qu'avec des amis. Eh bien, on va passer à la section suivante.
Au défi.
Alors, on est dans notre section, toujours avec des idées un peu fofolles, un peu décalées. Alors, pour rester dans nos thématiques galères et problèmes, je voulais te poser un défi.
Oui.
Alors, encore de l'enthousiasme, j'adore. parce qu'en général, quand on dit « il y a un problème », on dit pas « oui ». C'est non.
Mais j'adore un problème hypothétique. Moi, ça me va. Hein.
C'est vrai, c'est vrai. Très intelligente sur ce coup. Alors, Maëlène, si jamais, par exemple, tu devais tout le reste de ta vie choisir entre deux problèmes. Alors, le premier, c'est de devoir subir constamment des coupures Internet. Constamment. Le second problème serait de devoir subir constamment des annulations de train, de transport. Je l'ai fait facile, là, je suis gentille. Quand je dis de train, les trains, pas que de banlieue, hein, ou métro, même les trains pour aller à Bordeaux. qu'est-ce que tu choisirais ?
Waouh, ça c'est non. C'est pas du tout facile comme dilemme. Ce n'est pas du tout facile, honnêtement.
Alors, explique-nous pourquoi.
Alors, bon, déjà, les coupures Internet, c'est quand même très problématique. J'en ai de temps en temps et c'est vrai que ça m'empêche de travailler. Donc, j'ai des choses à faire et je ne peux pas les faire alors que je suis là devant mon ordinateur, dans la capacité physique de faire mon travail, mais dans l'incapacité technique de le faire. Donc, c'est quand même très frustrant. Et puis, même pour autre chose que pour le travail, par exemple, je ne pourrais pas appeler mon copain parce qu'on s'appelle par WhatsApp et je détesterais avoir Internet qui se coupe alors qu'on est en train de s'appeler. Ça aussi, c'est quand même problématique. Je ne pourrais pas regarder la télé non plus parce que la télé est quand même liée à Internet. Donc, effectivement, je pense que... Mais surtout, principalement pour... le travail, je pense que ce serait extrêmement gênant d'avoir des coupures Internet récurrentes. Après, pour les trains, c'est quand même vraiment problématique aussi parce que déjà, on s'organise quand on doit prendre un train. On a prévu des choses, on a prévenu des gens. Parfois, quand c'est pour un voyage, des vacances, on a aussi réservé des logements qu'on ne pourra peut-être pas utiliser parce qu'on n'aura pas pu prendre notre train.
C'est pour ça qu'il existe des assurances annulation.
Ouais.
Je leur fais un peu de pub.
Ouais, effectivement. Donc là, je suis en train de pencher du côté de l'annulation des trains, en fait. Parce que je me dis que finalement, si je sais que mes trains peuvent être systématiquement annulés, je m'habituerai à prendre toujours des assurances. Et bon, certes, je vais payer un peu d'argent, mais c'est quand même peut-être moins gênant au quotidien, je dirais. Et peut-être que je déciderai d'avoir... une voiture.
Un vélo pour aller jusqu'à Bordeaux.
Ouais.
Une voiture électrique. Faire du...
covoiturage.
Comment on appelle ça ? Du covoiturage.
Ouais. Oui. Donc, je pense que je choisirai l'annulation des trains.
Bon.
Et toi ?
Bah, écoute. Moi, je pense que je vis déjà les trains. Ce n'est pas hypothétique. Non, j'exagère. Non. Je veux quand même remercier toutes les personnes qui travaillent à la RATP, à la SNCF. Je pense qu'il y a des choses à changer, mais que c'est des gens qui travaillent très sérieusement, très dur. Et je veux les remercier pour ça. Les quoi que ça arrive, on aimerait que l'information soit meilleure, mais je sais qu'il s'améliore beaucoup. Et puis moi, j'ai beaucoup de chance parce que le RER A en particulier qui va vers Saint-Germain-en-Laye, il a quand même beaucoup moins de problèmes que d'autres RER. Et puis surtout, il dessert très bien Paris, très rapidement. Donc, je ne vais pas être ingrate, franchement. Mais comme je vis beaucoup souvent des retards à cause de ça, et je sais que c'est quand même un peu le stress pour moi, surtout quand je dois repartir dans l'autre sens chercher ma fille, c'est quelque chose que j'ai déjà expérimenté, on va dire. Par contre, Internet, pareil, j'ai de la famille à l'étranger, j'aimerais pouvoir leur parler plus souvent, pour le travail également. Mais il est vrai que si jamais j'avais pas la problématique du travail et qu'il fallait s'organiser, etc., je sais que ça me rendrait triste au début parce que j'aimerais regarder mes séries, mes films, etc. Mais sinon, j'ai des tonnes de bouquins, comme tu sais, devant. Donc, je me dis peut-être, pourquoi pas pouvoir prendre le train, c'est quand même plus sympa, pouvoir voyager, aller ailleurs sans avoir de problème. Alors que quand j'ai pas Internet, je suis chez moi et j'ai peut-être des alternatives. Voilà. Moi, je choisirais l'autre. Voilà. Mais écoute, je pense qu'on va passer à la section suivante.
Je râle, tu râles, nous râlons.
Bon, là, Maëlan, je pense qu'on peut se lâcher, hein. Complètement. C'est la section qu'on adore de toute façon. Et là, aujourd'hui, vraiment, on a une vraie raison de râler.
Ouais.
Dis-nous tout.
Alors, en fait, ça pas si facile que ça parce que s'il faut choisir vraiment un type de problème qui est extrêmement agaçant et qui surpasse les autres, c'est là que ça devient difficile. Quelque chose qui fait râler comme ça aujourd'hui.
Moi, je pense que s'il fallait choisir un problème en particulier, je pense qu'on est quand même... Quand je compare à des pays où il y a des coupures d'eau, des coupures d'électricité, souvent, on est quand même bien lotis et qu'on n'a pas de raison de râler. Maintenant, moi, personnellement, comme je disais, si je comparais au niveau des transports, parce que c'est ce que je vis quotidiennement, assez souvent, si ce n'est pas quotidien, qui m'embête beaucoup, c'est le manque d'informations. Souvent, le train est arrêté longtemps et quand enfin nous avons le droit à un message, ben, on entend ça, préparez vos oreilles. Et donc, on ne comprend rien à ce qui se passe. Et encore, j'ai été gentille. Une voix qui hurle dans le haut-parleur et qui dit des choses inaudibles. Et puis, voilà. Et ça, je pense que c'est ce qui m'embête le plus. Alors, c'est pas souvent, mais ça arrive. Et c'est très embêtant. T'as déjà vécu ça, Hélène?
Je pense pas que j'ai vécu ce genre de choses exactement. Moi, j'ai généralement eu des informations, même si les informations sont parfois un peu laconiques, comme par exemple, nous allons rester stationnés sur la voie pour une durée indéterminée. C'est déjà bien, hein. On sait qu'on va pas bouger tout de suite, mais après, oui. C'est vrai que ce serait... Mais ils ne le savent pas, en fait, donc c'est pour ça qu'ils peuvent pas nous dire...
Oui, oui. Moi, c'est carrément pas de message, tu vois. Oui. On est arrêté entre deux gares, en plein milieu, pas d'air, et puis on ne sait pas ce qui se passe. Et c'est un peu angoissant, des fois, surtout que je suis claustrophobe. Donc, mais je pense que dans le RER, c'est différent. Le métro n'a pas les mêmes problématiques, je crois.
Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, ce qui peut me poser problème, c'est pas tellement le métro, mais au niveau des transports, ce serait, par exemple, ça m'est déjà arrivé d'avoir un pneu de mon vélo qui crève en plein milieu du chemin. Donc ça, généralement, c'est vraiment embêtant parce qu'on n'est pas du tout près de chez soi. Donc, on doit se débrouiller pour trouver, pousser son vélo jusqu'à un endroit. Moi, la dernière fois, je suis allée jusqu'à un endroit où ils réparent les vélos. Donc, j'ai poussé mon vélo jusque-là et je leur ai demandé de me le réparer.
Bon, et c'est quand même plus sympa de pousser son vélo que sa voiture, hein, Hélène.
Oui, oui, c'est vrai que si on compare, oui.
Tu te sens mieux d'un coup, là, non?
Oui, c'est vrai, bon. C'est vrai.
Les amis l'auront compris. On râle pour le plaisir de râler, là, parce qu'au final, tout ça, c'est des petits problèmes. C'est pas des grosses galères, donc ça va. Bon, bah, je pense qu'on peut passer à quelque chose de plus léger.
Les ondes joyeuses.
Qu'est-ce qu'on a envie de dire de beau? Moi, j'ai envie de commencer par un truc. Je pense que là, par exemple, c'est vrai que c'est embêtant de pas avoir notre Judith avec nous, qu'il y ait eu un imprévu, que ça peut être très compliqué pour notre programme. Mais au final, ça nous a permis de faire un petit podcast sympa, drôle, inédit. Et je trouve ça cool. Comme quoi, des fois, on peut avoir de belles choses qui arrivent à ces moments-là.
C'est vrai. Oui, oui. Tout à fait. J'essaye de trouver des avantages à me faire tremper quand je fais du vélo, mais je trouve pas.
Bah, prendre une douche gratuite, un peu polluée, mais une douche gratuite.
Oui, une douche gratuite, ouais, c'est vrai. Et puis, ça donne l'occasion de, quand on arrive chez soi, de passer sous la vraie douche, bien chaude, et de se réchauffer comme ça, de bien se laver, se réchauffer, se mettre dans un bon pyjama. Et là, on se sent tellement bien.
Ah, tu m'as donné envie là maintenant, juste d'aller sous la pluie pour reprendre une douche. Comme quoi,
tu vois.
Mais écoute, on va passer à la section suivante.
Vos questions.
Alors les copains, ça y est, c'est la fin de ce podcast, cet épisode en tout cas. Et c'est la section, normalement, on a vos questions. Donc comme c'est un épisode imprévu, il n'y a pas de questions qui soient liées à cet épisode en tout cas. Mais souvent, on a envie de répondre aussi à des commentaires YouTube auxquels on ne répond pas forcément à temps, etc. Ou à des questions qui reviennent souvent dans les différents épisodes. Est-ce que tu en as comme ça de tête?
Alors, je sais que parfois, des personnes me demandent quel est mon accent quand je parle français.
C'est vrai. Pas qu'à toi, hein. Moi, j'ai entendu que j'étais canadienne aussi.
Oui.
Je ne le suis pas, c'est officiel.
Et même Judith, on lui demande parfois d'où vient sa prononciation de certaines consonnes. Je crois les V.
Oui.
On lui demande pourquoi elle prononce un peu F.
C'est vrai que là, mais c'est, après, c'est des tics de langage ou des manières dont on prononce les mots.
Exactement, mais je pense que c'est peut-être pas facile pour les personnes qui sont pas francophones natifs de reconnaître, de voir la différence entre ce qui relève de l'accent et ce qui relève de la voix de la personne, de son intonation naturelle. Donc, pour préciser, Judith prononce les V peut-être d'une manière tout petit peu différente de Rita ou moi, mais ce n'est pas un accent, c'est simplement sa voix. Non.
Sa belle voix.
C'est ça. Et pour ma part, on me demande parfois si j'ai un accent qui est étranger ou régional. Et non.
Bah, en fait, c'est assez drôle parce que tu as un accent assez neutre, mais tu n'as pas l'accent parisien exagéré. Et puis, tu n'as pas le... Par contre, moi, personnellement, je sais que ton accent peut être influencé, pas l'intonation, hein, je dis bien l'accent, ce qui est assez drôle, pas quand tu enseignes. Je ne pense pas que les amis l'aient entendu parce que tu parles pas comme toi. Mais je sais que, par exemple, maintenant que tu parles à ton chéri, des fois, et que tu apprends un peu l'amarique, sur certains mots, quand on parle en privé, bien sûr, je te dis « Mais Hélène, je crois que ça sonne comme en amarique, alors que je ne parle pas du tout amarique, les amis. » Ou alors, quelqu'un au tout début avait dit, on te taquinait, que tu avais un accent allemand, ce qui est complètement tiré par les cheveux. Mais moi, je pense que tu as une très bonne oreille. Ça, c'est ma théorie à moi. Et je pense que quand tu entends quelque chose, tu reproduis sur le moment, mais après, tu reviens très vite à ta nature et à ton français naturel et normal et tout à fait français, quoi.
Ouais, tu vois, c'est très vrai ce que tu dis, c'est exactement ça. Parce que avec mon amie allemande, quand je lui parle en français, je prends une sorte d'accent allemand, ou on va dire qui ressemble un peu à un accent allemand. Et on me l'a déjà fait remarquer. J'avais une amie une fois qui était chez moi pendant que je parlais avec... mon amie allemande au téléphone, et elle m'a dit « Mais quand tu lui parles français, tu prends un accent allemand. » Et elle rigolait, et je lui disais « Mais oui, je ne fais pas trop exprès, mais en fait, ça m'influence. » Et c'est vrai que je suis facilement influencée par la manière de parler de mon interlocuteur.
On fera peut-être un épisode là-dessus. Mais en tout cas, les amis, c'est la fin de l'épisode. On vous invite chaleureusement à nous envoyer des messages vocaux en allant sur easyfrench.fm. C'est très facile, tout y est expliqué. Et si vous n'osez pas, vous n'avez pas envie ou le temps, n'oubliez pas de commenter également sous nos vidéos et nous poser toutes vos questions. On sera ravis de pouvoir y répondre sous la vidéo même ou ici dans le podcast.
À bientôt!
À très vite! Easy. Easy friend.